Vous écoutez
RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h30 sur RMC et BFM TV. Bonjour Marine Le Pen.
Bonjour.
Merci de répondre à mes questions sur RMC et BFM TV. Vous revenez à peine du Sénégal. On va parler retraite, inflation, pouvoir d'achat. Mais justement, votre déplacement au Sénégal d'abord. Vous avez été reçu par le président Macky Sall. Nous avons échangé sur la place de l'Afrique, avez-vous dit, particulièrement du Sénégal, dans le Conseil des Nations. Vous plaidez pour une place pour l'Afrique au Conseil de sécurité de l'ONU. Et vous avez été interrogé aussi sur le sentiment anti-français. Vous avez déclaré, je vous cite, « Je ne crois pas qu'on puisse imputer ce sentiment anti-français à la France, mais aux dirigeants français. » Alors oui, certainement, et vous parlez d'Emmanuel Macron, en disant « Emmanuel Macron se comporte avec beaucoup de mépris. Les Africains n'en sont pas les seules victimes. Les Français le sont aussi. Ils méprisent tout le monde, y compris le peuple qu'ils dirigent. » Éric Zemmour vous reproche d'avoir été anti-français, hors du sol français, et il estime que ce n'est pas digne. Il vous reproche d'avoir tenu des propos anti-France. Qu'est-ce que vous répondez ?
Je pense qu'il n'a pas compris mon propos. D'abord, je n'ai pas de leçon à recevoir d'Éric Zemmour, numéro un. Et numéro deux, au contraire, je défends la France en indiquant que ça n'est pas la France qui est en cause. Il n'y a pas de sentiment anti-français au Sénégal. J'ai même, moi, rencontré beaucoup d'amour de la France et beaucoup d'attentes et beaucoup d'espoir. Ce sont les dirigeants français qui, à l'égard de l'Afrique, ont un comportement qui est mal ressenti, mal perçu. Enfin, on se souvient quand même du discours de Dakar de Nicolas Sarkozy qui a été ressenti comme une véritable gifle.
Vous-même, vous l'auriez condamné, le discours de Dakar ?
Bien sûr, par l'ensemble des Africains. Et moi, je crois que c'est une erreur. C'est une erreur pour l'Afrique, qui a de belles perspectives devant elle. Pour peu, encore une fois, qu'on puisse créer les conditions d'une coopération avec la France, qui est attendue notamment des pays francophones. C'est pour ça que je veux, moi, donner une priorité aux pays francophones, notamment en matière de formation des étudiants. Je pense qu'il faut qu'on concentre nos efforts. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre quelques étudiants anglophones.
En fait, les aider là-bas, mais les aider un peu moins ici, quoi.
Mais je pense qu'il faut à tout prix que l'on puisse donner un avantage aux étudiants francophones d'Afrique en France, à la condition qu'ils retournent pour aider au développement de leur pays, pas qu'ils restent en France pour exercer grâce à la formation qu'on leur a donnée.
Donc des visas étudiants plus faciles à obtenir.
Peu, je vais vous dire une chose, c'est un petit peu ce que disent d'ailleurs cette tribune qui est parue il y a une semaine dans le journal du dimanche, de professeurs de médecine qui disent « La réforme de l'immigration qui vise à attirer des médecins africains en France est » en quelque sorte, moi, c'est moi qui le dis, mais eux, la critique, malfaisante, parce que elle prive les Africains de leurs médecins, de leurs infirmières, alors qu'ils en ont évidemment un grand besoin. Donc, je crois que c'est une cohérence que je développe déjà depuis de très nombreuses années. J'ai tenu un discours il y a 6 ans à N'Djamena, dans lequel j'évoquais les relations qui devaient être, à mon avis, celles de la France et de l'Afrique.
Mais vous allez plus loin, vous dites qu'il y a un mépris, je vous cite toujours, un mépris qui va jusqu'à remettre en cause la souveraineté du Sénégal. Vos mots, c'est respecter la souveraineté d'un pays, et en l'occurrence celle du Sénégal, c'est accepter que le Sénégal prenne ses décisions et ne pas chercher à lui imposer un comportement ou un positionnement, ce que vous imputez donc à Emmanuel Macron.
Oui, quand le Sénégal se voit reprocher de continuer à avoir des relations, par exemple, avec la Russie, soit ils sont souverains et ils décident des relations bilatérales qu'ils entendent avoir avec tel ou tel pays du monde, soit ils ne sont pas souverains, ils reçoivent en quelque sorte des instructions ou des leçons de morale, et à ce moment-là, ils ont le sentiment qu'on est dans une démarche de néocolonialisme. Lorsque on
et
cherche
on est dans
à leur
une
imposer...
démarche de néocolonialisme. Non, mais... C'est un sentiment ou c'est une réalité ?
Non, je pense que c'est un sentiment, mais c'est quand même une contestation de leur souveraineté. Lorsqu'on vient leur dire « vos traditions ne valent rien, votre mode de vie ne vaut rien, il faut que vous imposiez des traditions et des modes de vie qui sont les nôtres, c'est-à-dire ceux de
qui
l'Europe », ils le ressentent mal. mais l'Union européenne qui conditionne toute une série d'aides à une évolution des lois, à une évolution des mœurs. Eux, que disent-ils ? Ils disent, mais c'est notre identité, notre manière de vivre. Vous ne pouvez pas nous imposer au motif de coopération par l'intermédiaire d'une forme de chantage des lois, des règles, une évolution ou une dynamique d'évolution des mœurs qui n'est pas la nôtre.
J'essaie de comprendre. En fait, ce que vous êtes parti dire sur le sol africain, c'est chez vous, vous faites ce que vous voulez et on vous respecte très bien, mais on vous respectera d'autant plus que vous repartirez quand vous venez en France, c'est bien ça ?
Non, mais c'est pas le sujet, ça n'a rien à voir, vous mélangez deux choses différentes. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un potentiel, il y a un potentiel qui est considérable. Il y a 400 millions, il y aura en 2050 400 millions de jeunes de 14 à 25 ans en Afrique. C'est un potentiel considérable, mais c'est aussi un défi qui est considérable. Voilà ce que je viens de dire. Or, ce défi se transformera en potentiel si cette jeunesse africaine travaille au développement de leur pays respectif. Pour cela, il faut qu'il y ait de la sécurité. Et je crois que la France prend sa part dans la lutte contre le fondamentalisme islamiste. Et il y a des moyens, encore une fois, de coopération économique, bilatérale, parce que les pays africains souhaitent en réalité faire plus du bilatéral que du multilatéral. Là encore, ne les forçons pas à rentrer dans le prisme qui est le nôtre.
Et qu'est-ce qu'on fait avec le Burkina Faso?
Et le plus important, je vais vous dire une chose, le plus important, c'est surtout de réussir à travailler en ayant conscience que nous sommes des nations souveraines à égalité. À égalité. Voilà. Lorsqu'on aura réussi à intégrer ça, ça veut dire que la politique de la France ne peut pas être ni cupidité, ni charité. Et c'est ce que je suis allé dire au Sénégal.
Et la question, elle se pose au Burkina Faso de manière cruciale, puisque le Burkina Faso donne un mois à la France, un ultimatum, pour quitter le sol burkinabé. Il y a encore 400 soldats français. Est-ce qu'il faut que la France quitte le sol du Burkina Faso ?
La France n'a pas le choix. Elle ne peut pas se maintenir au Burkina Faso contre l'avis du gouvernement burkinabé. Mais c'est un échec absolument total après celui du Mali. Tout cela, je vais vous dire, est la conséquence de la faute originelle qui est l'intervention en Libye. C'est l'intervention en Libye qui a provoqué, et je l'ai dit à l'époque, donc j'ai aucun problème à vous le dire aujourd'hui, et j'ai même été insulté pour l'avoir dit. Tout le monde trouvait que c'était extraordinaire d'intervenir en Libye. Nous avons été les seuls à dire, vous êtes en train de commettre une erreur gravissime qui va déstabiliser l'intégralité de la région, qui va diffuser non seulement des armes un peu partout, qui atterriront dans les mains des islamistes. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc
la France
nous jouons le rôle de digue. Nous jouons le rôle de digue dans des pays qui acceptent que nous le fassions en coopération avec leur propre armée. Hein. C'est le cas du Sénégal, c'est le cas de la Côte d'Ivoire.
Mais quand le Burkina Faso, j'espère que ça tiendra. Partir, y compris pour nous remplacer sans doute par des milices russes.
Oui, mais attention, nous n'intervenons pas militairement. Hein. Nous avons des forces de formation au Sénégal. C'est-à-dire qu'en réalité, nous formons, nos militaires forment, contribuent à former les armées, à leur apporter la technicité qui est la nôtre. Nous n'avons pas d'autres actions que celle-là, mais si je puis me permettre, c'est déjà bien.
Marine Le Pen, les retraites et le pouvoir d'achat. Les retraites d'abord, la bataille politique qui commence aujourd'hui avec la présentation du texte en Conseil des ministres. Alors ça tombe bien parce que vous ne croyez qu'à la bataille politique, j'ai l'impression, plus qu'à celle des rues. Vous serez pas en tout cas dans la rue, vous n'étiez pas dans la rue, vous n'y serez pas.
Non, je pense que chacun doit courir dans son couloir, si vous voulez. Je crois que toutes les mobilisations sont bonnes, mais elles s'additionnent, elles ne se soustraient pas les unes aux autres. Il y a le combat par l'intermédiaire des manifestations dans la rue, il y a le combat à l'Assemblée nationale, il y a le combat que nous menons, que je mène là avec vous, qui est le combat auprès des médias pour expliquer aux Français la nocivité de la réforme des retraites. Le fait qu'en réalité, on cherche à faire porter sur eux la responsabilité d'un déficit qui n'est pas d'ailleurs si spectaculaire que cela.
J'ai l'impression que chacun y voit cette histoire de déficit. Il y en a qui disent que c'est urgentissime, d'autres qui disent que c'est parfaitement tenable.
On y reviendra.
Pour vous, c'est tenable.
Oui, c'est parfaitement tenable. On y reviendra, mais l'idée, c'est de faire peser sur les Français la responsabilité en les culpabilisant. C'est parce que vous ne travaillez pas assez qu'eux et en ne se focalisant que sur les dépenses. Mais moi, je viens dire, attention, le problème, et le corps d'ailleurs, le Conseil d'orientation des retraites le dit, le problème, ce ne sont pas les dépenses, ce sont les recettes. Or, les recettes, c'est de la responsabilité de l'État.
Les trouverait où, les recettes? En travaillant davantage? Mais en non. travaillant plus longtemps? Mais en cotisant
non.
davantage?
Non. Avec un élément qui est un élément essentiel, qui est la productivité. C'est-à-dire le PIB par heure travaillée. Or, le problème de la politique d'Emmanuel Macron, c'est qu'elle a entraîné, en réalité, une stagnation absolument totale de la productivité. J'ai pris les chiffres là, qui sont extrêmement intéressants. Depuis 2017, on le voit bien, ça, c'est le mandat d'Emmanuel
Vous
Macron.
Vous avez apporté un
0,1% par an de productivité. Ça, c'est l'OCDE, 1,8% en moyenne par an. C'est quoi? C'est l'ubérisation de l'économie. Emmanuel Macron ne cesse de se féliciter en disant « Regardez, on crée des emplois ». Mais quel type d'emploi créez-vous? Vous créez des livreurs délivrous. Le livreur délivrous, il ne pourra jamais augmenter sa productivité parce qu'il ne pourra jamais rouler à 200 km à heure. Voilà, j'essaie de faire comprendre. Par quoi on obtient de la productivité et une augmentation de la productivité? Par les emplois industriels et notamment l'industrie manufacturière. Donc en ayant effondré l'industrie dans notre pays, en refusant tout ce qui pourrait être fait pour relocaliser nos industries, eh bien en réalité, Emmanuel Macron ne permet pas le financement système de retraite.
La baisse du chômage, qui est une baisse historique, hein, ça n'a jamais été aussi faible, le chômage en France depuis 25 ans, oui, c'est un leurre.
Oui, c'est un leurre. Mais bien sûr, c'est un leurre, parce que la qualité des emplois qui est créée, où je vous rappelle qu'il y a quand même une grande partie d'auto-entrepreneurs, hein, on va pas se mentir, beaucoup d'auto-entrepreneurs sont des salariés au chômage qui se mettent en auto-entrepreneur parce que ils se disent, bah, avec ce statut, je vais peut-être réussir quand même
à grappiller un peu,
à travailler un peu. Donc, ça n'est pas une démonstration de bonne santé.
Donc, pour vous, la solution pour sauver les retraites, d'abord, faut-il sauver les retraites?
Non, bien sûr, il faut sauver les retraites.
Est-ce qu'il y a urgence? Est-ce qu'il y a péril?
Non, il n'y a pas de péril.
Est-ce que les retraites sont menacées?
Non.
D'abord sur le constat.
Non, elles ne sont pas menacées.
Donc il n'y a pas d'urgence à sauver les retraites.
Il y a, et d'ailleurs, le corps le dit. Moi, je voudrais vous dire, si j'arrive à le retrouver.
Oui, mais moi, je l'ai lu.
Clairement,
le corps,
vous l'avez lu.
Je l'ai exprimé
mais
plusieurs fois.
Mais le 19 janvier à l'Assemblée nationale, ils disent les dépenses de retraite sont globalement stabilisées et à très long terme, elles diminuent dans 3 hypothèses sur 4. Or, le président du corps dit bien, le gouvernement a pris, en réalité, a fait ses projections sur l'hypothèse la plus pessimiste qui soit. Bon, donc, il y a une manœuvre derrière ça.
La troisième, hein, c'est pas la plus pessimiste.
Mais imaginons même, à mon avis, c'est parfaitement d'ailleurs évitable, avec les mesures que j'ai proposées pendant la présidentielle, mais imaginons même qu'il y ait, allez, 10 milliards de déficit par an. Mais 10 milliards sur 345 milliards! C'est ça, la retraite. Donc, vous voyez bien que c'est dérisoire et que quand il s'agit de trouver de l'argent à droite, à gauche, le gouvernement arrive à en trouver. Non, cette réforme, elle est vraiment non seulement inefficace, mais en réalité profondément injuste pour les Français.
Mais vous n'irez pas dans la rue, on est bien d'accord.
Mais encore une fois, les syndicats vont dans la rue, c'est normal, c'est légitime.
Mais il n'y a pas que les syndicats, il y a aussi les politiques, et notamment les politiques de gauche.
Les électeurs, d'ailleurs, y compris ceux du Rassemblement National, un certain nombre sont en province, partis également manifester leur désaccord. Mais nous, nous sommes le premier groupe d'opposition. Notre rôle, c'est évidemment de mener la bataille à l'Assemblée nationale. Et nous déposerons d'ailleurs une motion référendaire parce que nous souhaitons qu'il existe un référendum.
Une motion référendaire, vous souhaitez que cette question des retraites, elle soit tranchée par les Français via un référendum?
Bien sûr, mais d'ailleurs, c'est la loi. Est-ce que vous êtes d'accord avec la loi que propose le gouvernement ou est-ce que vous êtes en désaccord? Mais je vous signale qu'Emmanuel Macron n'avait pas écarté cette possibilité de soumettre la réforme des retraites par référendum. Bon, c'est vrai qu'il change d'avis comme de chemise, certes, mais...
Il a changé de projet de réforme des retraites. C'était la réforme par points. Ah oui, on ne touchait pas à l'âge légal.
Ah non, mais déjà, là, vous allez loin. Au tout début, il était tout à fait opposé à l'allongement de la durée
de
travail.
Il estimait en effet que c'était injuste.
Voilà. Donc tout, ratatou et l'inverse de tout.
Je finis quand même sur cette histoire de manifestation. Donc, l'option d'aller dans les cortèges, c'est non. Et j'ajoute quand même que vous n'y étiez pas les bienvenus. Non. Philippe Martinez, ici même, le disait la semaine dernière, il ne souhaite pas que des élus du Rassemblement National se mêlent au cortège.
C'est tout de même très révélateur. Voilà quelqu'un qui explique que la réforme des retraites, et il a raison de le dire d'ailleurs, est une réforme toxique. Qu'elle va mettre le couteau sous la gorge des Français, qu'elle va entraîner de très graves injustices. Et non seulement il a contribué à faire élire Emmanuel Macron, dont c'était le seul programme exprimé par Emmanuel Macron pendant la présidentielle, ça a été la réforme des retraites et l'allongement de la durée de travail. Bon, bien malgré cela, ils ont appelé à voter pour lui. Et aujourd'hui, il est en train de mener la guerre à ceux qui, en réalité, sur ce sujet, comme lui, sont opposés à cette réforme. Ces gens sont pas sérieux, ne sont pas sérieux. Voilà. En réalité, ils défendent leur
Philippe,
propre,
Philippe,
leur
quand
propre
vous dites
intérêt.
Ces gens, c'est qui?
Tous ces syndicats qui viennent.
Vous les mettez tous dans le même sac, Laurent Berger, Philippe
Martinez. Oui, ils ont à peu près tous le même comportement, qui est un comportement hypocrite. Voilà, disons les choses. C'est de l'hypocrisie que venir pleurer sur quelque chose dont ils sont responsables, c'est-à-dire l'élection d'Emmanuel Macron, et en plus de mener la guerre à ceux qui, depuis toujours, s'oppose à la réforme des retraites.
Il y a un enjeu qui est aussi la question de l'emploi des seniors. Là-dessus, on le sent bien, le gouvernement pourrait être un peu évolué. Ils avaient proposé la semaine dernière un index, c'est-à-dire en gros demander aux entreprises de publier leurs chiffres et de prouver qu'ils emploient bien des seniors, mais il n'y avait pas de contrainte. Ils pourraient aller jusqu'à contraindre les entreprises si elles ne gardent pas suffisamment les seniors dans leur masse salariale. Est-ce que ça, c'est une bonne évolution à vos yeux ?
Non, je ne crois pas. Je pense qu'il y aura un effet pervers, c'est qu'en réalité, les entreprises se débarrasseront plutôt encore de leurs salariés pour ne pas subir éventuellement cette sanction. Et puis, le débat, c'est l'emploi des seniors.
Des sanctions.
Mais dites-moi, est-ce que le débat, c'est pas l'emploi des jeunes ? Parce que là encore,
il n'y a pas de débat pour vous sur l'emploi des seniors en France ?
Si, il y a un débat, mais il y a un débat aussi sur l'emploi des jeunes. Le sens de la réforme des retraites qui est la mienne, c'est justement d'inciter les jeunes à entrer plus tôt sur le marché du travail. Nous avons un taux d'activité des jeunes qui est 10 points inférieur, par exemple, à celui de l'Allemagne. Ça a des conséquences. Or, que fait cette réforme ? Plutôt que d'inciter les jeunes à entrer tôt sur le marché du travail, ils incitent les jeunes à partir tard sur le marché du travail. C'est-à-dire, vous rentrerez à 20 ans, vous allez cotiser 44 ans, ouais. Vous rentrez à 25 ans après avoir fait des études supérieures et être parti 2 ans en stage à Singapour, eh bien, vous cotiserez 42 ans.
Pour les plus favorisés ou ceux qui ont des études plus longues, qui ont des stages à l'étranger, finalement, c'est plutôt pas mal.
Mais il est évident que c'est une mesure qui va à l'encontre de ceux qui ont un travail dur. Or, moi, je viens dire une chose simple. Plus on travaille tôt, plus on travaille dur, plus on doit partir tôt. Ça veut dire que ceux qui sont entrés avant 20 ans doivent partir s'ils le souhaitent, parce que à 60 ans, s'ils le souhaitent, car je rappelle que l'âge légal, c'est pas un âge où vous êtes obligé de partir. Et c'est un âge où vous pouvez partir si vous avez l'ensemble de vos trimestres. Et progressivement, je le dis bien, progressivement, cet âge ira de 60 à 62 ans et les cotisations de 40 à 42 de 40 à 42 ans
pour très progressivement.
Très progressivement pour permettre.
Vous estimez que là la proposition du gouvernement elle est trop brutale, y compris dans cette transition.
Non mais je veux dire elle est horriblement brutale. La réalité, c'est que un professeur, là, par exemple, qui envisageait ou qui pouvait partir à la retraite en 2025, c'est-à-dire demain matin, va devoir travailler un an de plus.
Et partir en 2023.
C'est-à-dire qu'en réalité, on met le couteau sous la gorge des salariés, y compris ceux qui étaient les plus proches de la retraite. L'objectif de cette réforme, je l'avais dit pendant la campagne présidentielle, l'objectif de cette réforme, c'est de faire baisser en réalité les pensions de retraite. Et j'ai été contente de voir que j'ai été rejointe
cette analyse. Quand même, la pension à 1 200 euros, vous n'y croyez pas.
Mais ça ne touche que 2 millions de personnes. En réalité, il y a 6 millions de personnes à la retraite qui ont une retraite.
2 millions, c'est pas mal
moins.
Quand même.
Oui, vous avez raison, c'est bien, mais c'est epsilonesque par rapport aux problématiques de la retraite. Vous avez, sur BFM TV, interviewé le concepteur de la réforme des retraites suédoises.
La retraite à 65 ans et qui décourage Emmanuel Macron de suivre le modèle suédois.
Pourquoi ? Parce qu'il fait la même analyse que celle que j'avais pu faire pendant la campagne présidentielle, à savoir qu'en réalité, ça entraîne l'allongement de la durée de travail, entraîne la baisse des pensions. Pourquoi ? Parce que les gens ne vont pas jusqu'au bout et ils n'arrivent pas à avoir une retraite pleine. Parce qu'ils n'y arrivent plus physiquement, ils n'y arrivent plus. Et deuxièmement, parce que tous ceux qui travaillaient au-delà de l'âge légal pour obtenir une surcote de leur pension ne peuvent plus en réalité le faire. Ils n'en ont plus la capacité physique. Et donc, tout cela entraîne une baisse des pensions de retraite. Je vous signale qu'en Suède, leur réforme a quand même entraîné la baisse des pensions pour 92% des femmes et pour 74% des hommes.
Et justement, puisqu'on parle pouvoir d'achat également, je voudrais qu'on dise un mot de l'inflation, alerte de la grande distribution, qui dit qu'on va aller plus loin encore que les 12% d'inflation qu'il y a en ce moment sur les produits de l'alimentation, que ça devrait encore continuer à augmenter. Les distributeurs qui dénoncent la proposition de loi qu'on appelle de Crozaille, du nom d'un député macroniste Renaissance, qui voudrait donner l'avantage aux grands groupes industriels dans les négociations avec la distribution. Vous êtes plutôt distribution ou industriel, vous ?
Je suis plutôt arbitrage de l'État. Je considère que lorsqu'il y a des négociations sur les prix, et s'il n'y a pas d'accord, c'est l'État qui doit fixer le prix minimum. Voilà, c'est ce que je crois. Parce que je pense qu'en réalité, passer du lobby, en gros, de la grande distribution qui imposerait à ces prix au lobby des industriels qui imposeraient leur prix n'est pas obligatoirement une bonne chose. D'autant que si les industriels fixent leur prix, rien n'interdit à la grande distribution de fixer exactement le prix qu'ils souhaitent.
Et il y a une discussion aujourd'hui même sur la question du panier anti-inflation. En gros, Bercy et la ministre des PME demandent aux distributeurs de fixer des prix bas sur 20 produits, un panier de produits quotidiens, sur lesquels ils réduiraient, voire supprimeraient leur marge.
Dis donc, avec 20 produits, on ne va pas aller loin quand même dans la vie quotidienne.
C'était 100.
Avec 20 produits, vous allez pas loin. Hein. Combien vous mettez de produits
Mais vous alliez pas combien jusqu'à vous demander à la distribution combien, de supprimer. Combien vous mettez juste à l'État combien de supprimer
mettez,
la TVA.
Combien vous mettez de produits d'hygiène dans ces 20 produits.
Il y a des produits d'hygiène dedans. J'ai pas regardé.
Combien vous mettez les Vous comprenez ce que je veux dire?
Oui, j'imagine qu'il y a un shampoing, un savon, quoi.
Voilà. Un pays en voie de sous-développement, quoi. Disons les choses. Hein.
C'est pas mieux que rien quand même, 20 produits mais, tout est avec un prix cassé.
Tout est mieux que rien. Mais je veux dire, le mieux, c'est de s'attaquer aux raisons de l'inflation. C'est-à-dire, un, à la spéculation. Deux, au prix de l'énergie. Voilà. Or, sur le prix de l'énergie, le gouvernement ne fait rien, strictement rien. Il y a, nous le disons depuis...
Les boulangers demandent un bouclier tarifaire. Mais ils sont encore dans la rue aujourd'hui. Est-ce qu'il faut leur accorder le même bouclier tarifaire qu'aux particuliers?
Et puis le bouclier pour l'essence, qui est encore à 2 euros à peu près en mois.
Les boulangers, vous leur diriez oui, on vous donne le bouclier tarifaire.
Est-ce qu'il n'est pas quand même plus simple d'aller dire qu'il faut baisser le prix de l'énergie à la source plutôt que de multiplier
c'est
les chèques qui sont payés par les contribuables? Mais c'est-à-dire le problème du prix, notamment de l'électricité, qu'il faut décorréler du prix du gaz. Ça veut dire refaire d'EDF un monopole d'État. Arrêtons avec tout ce qui a été fait, qui a été une véritable catastrophe, qui a entraîné une inflation spectaculaire des prix de l'énergie. C'est ça qui est en partie à l'origine de l'inflation des prix.
En grande partie, en effet, des prix.
Bien sûr, si la baguette augmente, c'est à cause du prix de l'énergie qui est payé par les boulangers. Donc attaquons-nous à la source, aux absurdités qui ont été celles des gouvernements successifs. L'AREN, notamment, qui oblige EDF à vendre à prix coûtant à ses propres concurrents de l'électricité sans que ceci n'ait jamais investi dans aucune infrastructure. Et puis, ce prix de l'électricité lié au prix du gaz, décision qui a été prise par l'Espagne et par le Portugal et que la France se refuse.
Il faut décorréler, et je poserai la question d'ailleurs à votre même micro demain matin, à la ministre de la Transition énergétique. Une question encore, faut-il que la France livre des chars lourds à l'Ukraine ?
Non, je ne le crois pas. Je l'ai dit. Je partage en cela l'avis d'un certain nombre d'observateurs. Je pense que, en réalité, la question, c'est est-ce que tout ça ne va pas aggraver cette guerre ? Et quand la guerre s'aggrave, les morts se multiplient. Or, est-ce que c'est l'objectif ? Est-ce que, en réalité, en armant avec des armes lourdes, est-ce qu'on ne va pas d'abord internationaliser le conflit, ce qui est un danger quand même majeur, hein ? En tout cas, un risque majeur. Et deuxièmement, est-ce que l'on ne va pas s'éloigner d'une solution négociée de paix ? sachant que aucun conflit aujourd'hui au monde quasiment ne se règle de manière militaire.
Les Charles Leclerc, c'est donc non pour vous. Marine Le Pen, merci d'avoir répondu à mes questions ce matin sur RMC et BFM TV. Il est 8h53.